Notre parole de ce matin est tirée dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 23. L'étude sera faite par le diacre Joseph.
Matthieu, le chapitre 1, les versets 18 à 23. Là, il est écrit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen.
Amen. Le thème de notre prédication, Jésus revient. La prédication sera donnée par le révérend Daniel Yu.
Dia Tongvazeng, Joyeux Noël. Joyeux Noël. Il y a 2000 ans où Seigneur Jésus est venu. Il est venu comme sauveur. Lisons ensemble verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu comme sauveur. Le nom Jésus signifie Jéhovah sauve. De quoi? De quoi est-ce que Jésus nous sauve? C'est ce qui est important. De nos péchés. Nous les hommes, nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie. Le chômage, la maladie, les épreuves, la persécution, les querelles, la guerre et la mort. Mais parmi tous ces problèmes, pourquoi Jésus est venu nous sauver de nos péchés? Parce que le péché est la racine de tous ces problèmes. Si on enlève cette racine de péché, tous ces problèmes seront résolus. Parce que tous ces problèmes poussent de la racine du péché. Après qu'Adam a commis le péché, Dieu lui dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. À cause du péché, le sol est maudit. Est-ce qu'on sème des mauvaises herbes? Est-ce qu'on sème des épines? Mais parce que le sol est maudit, des épines, des mauvaises herbes, ce qu'on ne vit pas, sort du terrain. Nous devons lutter contre ces épines, des mauvaises herbes. Voilà la souffrance pour avoir de quoi manger, pour avoir la nourriture. Tout le monde doit souffrir durant sa vie pour gagner du pain. Quelle malédiction! Mais cette malédiction est venue du péché. L'homme doit souffrir pour avoir de quoi manger jusqu'à la fin de sa vie, finalement, il retourne dans la terre. C'est la mort. À cause du péché, la famille d'Adam a souffert. Honte et la peur et les divisions et la querelle et la maître. Voilà ce que le péché a donné à la famille d'Adam. Nous, tous les descendants d'Adam, nous devons souffrir durant notre vie. Comme Job dit, l'homme est né pour souffrir. Et à la fin, nous devons tous mourir. C'est à cause du péché. Il y a eu une maladie depuis 38 ans. Qui souffrait pendant 38 ans à cause de sa maladie. Jésus l'a guéri. Et après la guérison, Jésus lui dit, « Ne pêche plus, tu peux qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Ça veut dire que cette maladie est venue du péché. Mais bien aimé, mais le péché est une maladie plus terrible que cette maladie 38 ans. Le péché est une maladie plus grave que le cancer. Parce que le cancer tue notre corps, mais le péché tue notre corps et aussi notre âme, éternellement. C'est pour ça que Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Jésus est venu aussi comme Emmanuel. Lisons verset 23 ensemble. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce que signifie Dieu avec nous. Jésus est venu comme Emmanuel, Dieu avec nous, pour être avec nous. On peut penser que oh, les disciples, ils étaient avec Jésus, ils l'ont vu, ils ont mangé avec lui, ils marchaient avec Jésus, ils ont écouté son enseignement, sa parole. Mais nous, comment on peut être avec Jésus? Il n'est plus ici. Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas touché, tu n'as pas mangé avec lui. Mais comment est-ce que je pourrais être avec Jésus? Cette pensée, c'est un malentendu. Écoute ce que Jésus dit dans Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit qu'il est avantagé que je parte. Pourquoi? Parce que quand je parte, le Consolateur qui est le Saint-Esprit vient pour me remplacer. Mais si je ne parte pas, il ne vient pas. Donc il est avantagé que je parte afin que le Consolateur vienne. Pourquoi? Pourquoi il est avantagé que Jésus parte? Jésus a eu son corps humain. À cause de son corps, il est limité en temps et en lieu. Quand il est en Galilée, il n'est pas à Bethléem. S'il est à Bethléem, il n'est pas en Galilée. Quand il est allé sur la montagne seule, il n'est pas avec ses disciples. Quand il dormait dans le bateau, il ne sait pas ce qui passe à ses disciples. Donc, il a pu être en un temps fixé, dans un temps, un lieu fixé. Il n'est pas omniprésent. Mais il est parti. Le Saint-Esprit est venu. Parce qu'il est l'Esprit, il est en tout temps, en tout lieu avec nous. Alléluia. Il est beaucoup avantageux. Il est en même temps ici au Cameroun, en Corée, Il peut être en même temps ici à Yaoundé, à Douala. Il est avec nous 24 sur 24. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu serai toujours avec vous jusqu'à la fin de ce monde. L'Esprit Saint s'appelle aussi l'Esprit de Jésus. Par l'Esprit Saint, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Jésus est venu comme Emmanuel pour être avec nous. Alléluia! Ce Jésus revient. Il revient comme roi. Quand Jésus est venu, il y a 2000 ans comme serviteur. Il est venu comme serviteur. Marc 10, 45 dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu pour servir, pour mourir. Il est venu comme un petit enfant qui est couché dans une crèche d'une manière humble. Il est persécuté. Il est pendu sur la croix. Il était vraiment un serviteur. Mais quand Jésus revient, il est plus faible. Il est plus persécuté. Quand Jésus revient, il revient comme roi. Voilà Matthieu 24, 30, il dit. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Comme roi. Pas d'une manière secrète dans une crèche, mais d'une manière biblique afin que toutes les tribus du monde voient et se lamenter. Nous lisons Apocalypse 17, verset 14, ensemble. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Quand il est venu comme serviteur, il a été menacé, il a été persécuté, il a été tué. Mais lorsqu'il reviendra, il vaincra tous ses ennemis. Il viendra régner comme roi. Jésus revient. Il revient comme juge. Quand Jésus est venu pour la première fois, c'était pour sauver. Mais quand il revient, ce n'est pas pour sauver, c'est pour juger. Nous lisons ensemble Apocalypse 20, versets 11 et 12. Puis, tu vis un grand trône brûlant et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et tu vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qu'il était écrit dans ces livres. Jésus est venu juger. Il y a les deux jugements. Premier jugement est pour distinguer entre les chrétiens et les païens. Ce jugement sera fait par le livre de vie. Si tu crois en Jésus, si tu as la vie éternelle, ton nom est écrit dans le livre de vie. Et tu seras destiné pour le ciel. Mais si tu n'as pas cru en Jésus, Ton nom n'est pas écrit dans ce livre de vie et tu seras destiné à l'enfer. Pour le ciel, pour la vie éternelle. Pour l'enfer, pour le châtiment éternel. Le problème est que tu veux mourir dans le feu. Et tu ne peux pas mourir. Tu dois souffrir éternellement. C'est ce qui est terrible, terrible pour l'enfer. Deuxième jugement, c'est pour distinguer entre les chrétiens. Tu es chrétien. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu es pour le ciel. Mais dans le ciel, il y a aussi une distinction entre les chrétiens sincères et les chrétiens charnels. Ce n'est pas des œuvres, des livres, des œuvres. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Toutes les œuvres sont écrites dans ce livre. Et par tes œuvres, tu seras jugé. Si nous lisons 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15, nous tous, nous sommes architectes. Nous bâtissons sur un fondement, savoir Jésus-Christ. Quelqu'un y bâtit en or, en argent, en pierre précieuse. Ou quelqu'un y bâtit en bois, en foin et en chaume. Et tout le monde sera éprouvé par le feu. Le feu vient et ce que tu as fait doit passer par le feu. Si tu as bâti du or ou du argent, des pierres précieuses, ça va subsister dans le feu. Mais si tu as bâti du bois, du chaume, tout cela, ça sera brûlé par le feu, rien ne reste. Le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consommée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, oui, mais comme au travers de feu. L'autre est sauvé lorsque Sodome a été détruit. Mais il est sauvé comment? Il devait abandonner sa maison, son tête et tout ce qui est là. Il devait fuir. Il a perdu même sa femme. Il a dû coucher avec ses filles. Il est sauvé, mais au travers de feu. Il a tout perdu. Seulement, sa vie a été sauvée. On l'appelle un salut honteux. Il est sauvé, oui, mais un salut honteux au travers du feu. J'ai écouté le témoignage d'ancien Bach. Il était un ancien dans une église du village. Son église a décidé de bâtir le temple parce que le temple était trop vieux. Ancien Bach est très riche, il a eu beaucoup de moyens, mais parce que dans le village, les villageois n'avaient pas grand-chose. Et tout le monde attendait l'offrande de l'ancien Bach. Mais il n'a pas fait grand-chose pour contribuer. Pasteur et les fidèles prient beaucoup. Oh Seigneur, touche l'ancien, afin qu'il puisse se donner pour Dieu. Parce que nous n'avons pas de grandes choses. L'ancien Bach, un jour, il a eu un songe. Dans son songe, il est allé au ciel. Le ciel était beau et merveilleux. La route des maisons, c'était bien. l'ancien était très content. C'est apôtre Pierre qui l'a conduit pour montrer le ciel, tous les quartiers de ciel. L'ancien qui était très content dit, « Hey, où est ma maison? Tu veux rester où ?» L'ancien attend un peu, on doit encore continuer un peu loin. C'est là-bas au fond, il y a ta maison. L'ancien était très content, « Voilà, tu veux voir ma maison ?» Apôtre Pierre continue, appelle, au fond, là-bas, très loin. Il a montré une petite maison en planche. En planche? Hey, dans le ciel, il y a les maisons en planche, oui. Mais tu vois d'autres maisons en or, en diamant, mais qui va rester là-bas? L'ancienne, c'est pour toi. Pour moi, pourquoi? L'ancienne. Dans le ciel, on bâtit la maison de chacun avec ce qu'il a envoyé au ciel. L'ancien, tu n'as pas envoyé grand-chose. Donc avec petite chose, ce que tu as envoyé, on s'est débrouillé. Il n'y avait que cette petite maison de planche qu'on pouvait construire. Dans un songe, il pleurait. Quand il s'est réveillé, il continue à pleurer. Comment? Il s'est repenti. Il a donné une grande offrande à Dieu pour construire son église. Dans quelques semaines, il est mort. Dans quelques semaines. Mais bien aimé, c'est le problème de la récompense. Apôtre Paul, qui prêchait l'évangile, qui ont été persécutés pour Dieu, qui a été tué pour Dieu, juste avant sa mort, dit que j'attends maintenant la couronne de Dieu. Alléluia. Qui est différent de Lot, qui a été sauvé, mais au travers de feu. Il y a les chrétiens qui disent que, oh, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, il n'y a pas de problème, tu peux vivre comme tu veux. Mais il va perdre sa récompense. Le deuxième jugement, c'est le jugement de la récompense. C'est pour ça qu'on ne doit pas être content d'être sauvé seulement. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu pour avoir des récompenses. Jésus qui est venu il y a 2000 ans, il est venu comme sauveur. Il est venu comme Emmanuel. Mais Jésus qui revient, il vient comme roi, il vient comme un juge. Nous tous, nous devons nous tenir devant son grand trône blanc. Les premiers chrétiens, quand ils se séparent de la réunion, ils n'ont pas dit bonsoir, ils n'ont pas dit bonne nuit, ils n'ont pas dit au revoir, ils ont toujours dit Maranatha. Maranatha, qui signifie Jésus revient. Ils ont aspiré au retour de Jésus. Les vies étaient pures, les vies étaient saintes. Ils attendaient impatiemment que Jésus revient. Mais si Jésus revient aujourd'hui, es-tu sûr que tu auras des récompenses? Nous allons prier Dieu, ô Seigneur. Nous sommes à la fin de cette année 2021. Quelle œuvre que j'ai faite en cette année est écrite dans ce livre des œuvres. Que l'an prochain ma vie change. Que l'an prochain mes œuvres glorifient mon Dieu. Ô Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que tu es venu nous sauver, venu pour être avec nous. Nous prions, Seigneur, nous attendons impatiemment ton retour, parce qu'il y a nos œuvres, Seigneur, qui te glorifient. Il y a nos œuvres, Seigneur, qui méritent la récompense. Bénis tous tes enfants, Seigneur, afin que l'an nouvel soit vraiment une vie nouvelle, une vie transformée. Une vie qui te glorifie, une vie, Seigneur, qui attend impatiemment ton retour. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.